Vous êtes sur RTL.
Tous, bienvenue dans RTL Soir. Ce soir, à la une, vous allez pouvoir poser toutes vos questions au 3210 à Alain Fischer, le monsieur vaccin, le médecin qui dirige la campagne d'injection. Faut-il redouter le nouveau variant du Covid? L'Europe suspend tous ses vols avec l'Afrique australe. Et puis, est-ce qu'il y aura assez de troisième dose pour tous? Nous allons échanger avec Alain Fischer pour tenter d'y voir plus clair au lendemain des annonces du gouvernement et au moment où la cinquième vague nous frappe. Les autres titres de l'actualité maintenant, ils sont à suivre dans votre journal. Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire contre Nicolas Hulot au lendemain de la diffusion de plusieurs témoignages qu'il accuse d'agression sexuelle et de viol.
Sandrine Rousseau sera la seconde invitée de RTL Soir. La cadre d'Europe Écologie Les Verts explique avoir fait partie de celles qui avaient alerté sur le danger de travailler avec Nicolas Hulot.
Un coup de tonnerre à Notre-Dame, la démission de l'archevêque de Paris soupçonné d'avoir entretenu une liaison avec une femme. Les courses, c'est à Vincennes ce soir. Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet, le 5, le 15, le 10, le 14, le 2, le 9, le 6, la dernière minute, le numéro 15, Fogo Pico.
À 18h40, on va refaire nos régions dans RTL Soir, 20 minutes près de chez vous, de vos combats, de vos projets, de nos terroirs. Ce soir, Laurent Deutsch nous plonge dans l'histoire de la Bretagne, un village sans nom de rue dans la Creuse, et puis des cèpes cuisinés par un chef étoilé dans le sud-ouest. 19h15, ils refont la France, la presse étrangère qui scrute notre actu. Autour d'Amandine Bégaud, bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quel est le programme?
On se penchera notamment sur la question de la vaccination des enfants. Est-ce que ça fait plus débat ici en France qu'ailleurs? On ira notamment voir comment ça se passe en Israël où ça a commencé lundi.
Et puis des points réguliers sur le temps tout au long de l'émission avec vous Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir.
La tendance?
Un temps très très hivernal tout le week-end, on va avoir de la neige en montagne mais pas seulement, on risque d'avoir un petit peu de neige en plaine également.
Un détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Accusé de viol et d'agression sexuelle, le parquet de Paris ouvre une enquête contre Nicolas Hulot.
Au lendemain de la diffusion de plusieurs témoignages de victimes présumées dans un reportage d'Envoyé spécial, des femmes qui racontent une tentative de fellation forcée, des caresses, RTL Midi recevait tout à l'heure Maître Alain Jakubowicz, l'avocat de Nicolas Hulot.
Je sais d'expérience d'avocat ce qu'il en est de ce type de dossier. Je ne traite pas ces femmes de menteuses. Je dis simplement que 32 ans après les faits, l'évolution des choses de la société fait porter un regard qui est différent. Ces femmes parlent de faits qui se sont passés il y a 32 ans tels qu'elle en a elle-même le souvenir. Je suis à longueur d'année devant des cours d'assises et devant des tribunaux correctionnels et je vois comment la mémoire des choses et des gens s'érode avec le temps, que la lecture des choses est différente en fonction de toute une série de paramètres.
Alain Jakubowicz, l'avocat de Nicolas Hulot, invité tout à l'heure de RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro. Il y a au moins 6 femmes qui accusent l'ancien animateur télé et ancien ministre de l'Environnement. L'une d'entre elles était mineure au moment des faits et c'est sur elle que l'enquête va se concentrer, Alice Moreno.
Absolument. Le parquet a pris l'habitude d'ouvrir systématiquement des enquêtes sur les accusations de violences sexuelles contre des mineurs. Celle ouverte cet après-midi va porter sur le seul témoignage de Sylvia. Elle affirme que Nicolas Hulot a tenté de lui imposer une fellation. C'était en 1989. Elle était alors âgée de 16 ans. Les enquêteurs vont bien vérifier que ces faits tombent sous le coup de la prescription, même si cela laisse peu de doutes. Et puis si d'autres femmes décident de porter plainte contre Nicolas Hulot pour des faits similaires, le parquet n'exclut pas d'élargir l'enquête ouverte aujourd'hui.
Alice, avant même la diffusion de ce reportage d'Envoyé spécial, Nicolas Hulot avait nié les faits en bloc. Désormais, sa défense s'organise.
Oui, même si Nicolas Hulot lui-même a assuré qu'il ne s'exprimerait plus, il semble chercher des soutiens, en atteste ce message rédigé par son entourage. Ce SMS devait être envoyé à des dizaines de femmes ayant traversé la vie professionnelle ou privée de l'ancien ministre et invitait donc ces femmes à signer une tribune dans laquelle elles assureraient n'avoir jamais vu ou entendu parler de tels agissements de la part de Nicolas Hulot. Mais le projet a, semble-t-il, été abandonné. Quant à une possible riposte au pénal, une plainte pour diffamation, son avocat nous assure que ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
Alice Moreno pour RTL.
RTL, 18h04. La crainte de ce nouveau variant sud-africain potentiellement très contagieux. Un cas vient d'être détecté en Belgique, c'est le premier sur le continent européen.
De nombreux pays, dont la France, ont décidé de suspendre tous les vols en provenance d'Afrique australe. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Alors on a déjà vu passer beaucoup de variants jusqu'à présent, sans forcément que ça provoque autant d'inquiétude. Est-ce qu'elle est légitime cette inquiétude?
Alors pour l'instant, les informations scientifiques concernant B11529, c'est son nom de code, sont très sommaires. Ce variant ayant été détecté détectée il y a quelques jours à peine. Ce qui alerte tout de même les scientifiques, c'est la multitude des mutations observées sur sa protéine spike, les pics qui hérissent la surface du virus. Une trentaine de mutations au total, c'est un record. Des mutations qui pourraient notamment le rendre plus contagieux, avec une capacité de transmission accrue. L'espoir, il faut le noter tout de même, c'est qu'il est arrivé par le passé que des variants émergent et disparaissent aussi vite.
Alors, il est peut-être plus contagieux, d'accord, mais est-ce que les vaccins restent efficaces?
Alors, c'est évidemment la question. Il est encore là trop tôt pour y répondre. Pour l'instant, les virologues que nous avons consultés assurent qu'ils ne sont pas inquiets pour la protection conférée par les vaccins contre les formes sévères de la maladie, mais qu'il y a une incertitude concernant la transmissibilité. Ce soir, l'Agence européenne du médicament estime qu'il est prématuré de prévoir une adaptation des vaccins à ce nouveau variant. Et puis, des études réalisées par Pfizer-BioNTech pour savoir si ce nouveau variant est capable d'échapper à la protection vaccinale sont attendus d'ici 15 jours.
Odile Pouget pour RTL et bien entendu on interrogera Alain Fischer dans quelques instants sur ce nouveau variant donc menaçant. Le médecin qui dirige la campagne de vaccination dans notre pays sera notre invité dans quelques minutes et vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions au 3210.
Et face à la crainte de ce nouveau variant, les bourses européennes terminent en très forte baisse. Ce soir, Paris a chuté de 4,75%. Le CAC 40 autour des 6739 points. C'est sa pire séance depuis le 18 mars 2020 au moment de l'instauration du premier confinement en France. On parlait de la Belgique il y a quelques instants. Hein, c'est là où le premier cas de nouveau variant a été détecté en Europe. Et bien le pays subit actuellement une forte hausse des contaminations. Là, les autorités belges viennent de fermer l'ensemble des discothèques du pays. Cafés et restaurants devront fermer à 23h.
En France aussi, la courbe des contaminations entraîne de nouvelles restrictions et notamment pour les stations de ski.
Après une saison blanche l'an dernier, le premier ministre les avait autorisés à rouvrir sans passe sanitaire à condition que le taux d'incidence ne dépasse pas les 200. Mais la barre a été franchie hier. Le ministre de la Santé a donc confirmé que les skieurs devront avoir leur passe sanitaire pour prendre les remontées mécaniques. Fabrice Boutet, directeur du domaine skiable de l'Alpe d'Huez.
Ça sera un contrôle systématique à nos caisses. Donc on est en train de s'armer de zapettes nous permettant d'avoir le forfait valide avec un passe sanitaire présenté. Des contrôles aléatoires dans les files d'attente de nos remontées mécaniques. Donc ça veut dire qu'en pied de piste, nous allons mettre des équipes à nous qui vont remonter les files d'attente et demander le pass sanitaire.
Il est impossible de contrôler tous les skieurs?
Non, ça sera impossible. Sur l'Alpe d'Huez, vous allez avoir des journées à plus de 26 000 skieurs. Donc c'est impossible pour nous de contrôler tout le monde. Et ensuite, on n'est pas un parc d'attractions, on n'a pas qu'une seule porte d'entrée. Nous, on a une dizaine de remontées structurant en pied de station. C'est impossible de contrôler tout le monde.
Des propos recueillis par Serge Pueyo pour RTL.
Allez, dans un instant, dans ce journal sur RTL, la démission de l'archevêque de Paris, sa liaison avec une femme a été divulgué dans la presse. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, donc à 18h09 sur RTL. L'archevêque de Paris a présenté sa démission au pape.
Monseigneur Aupetit est mis en cause pour avoir eu une relation ambiguë avec une femme, Marie Guerrier.
Oui, c'était en 2012. Il reconnaît un comportement ambigu, mais pas de relation sexuelle, d'après son entourage contacté cet après-midi. Une relation qui remonte donc à 10 ans et à laquelle il a mis un terme. S'il a écrit au pape cette semaine, c'est pour préserver son diocèse. Michel Aupetit ne veut pas, dit-il, être une source de division à la suite d'articles de presse et qui parlent de cette liaison et pointe sa gestion autoritaire des affaires de l'Église parisienne. Alors il s'en remet au pape, on ne parle pas de démission. Michel Aupetit a remis sa charge d'évêque dans les mains du pape François. C'est en ces termes que les choses se formalisent et c'est donc au pape maintenant de trancher. Soit il lui demande de rester en poste, soit il le décharge de sa mission et il redevient simple prêtre. Michel Aupetit est à la tête de l'archidiocèse de Paris depuis 4 ans. C'est le plus gros diocèse de France, le plus riche, le plus puissant, c'est donc un poste exposé. Son parcours atypique a suscité un intérêt tout particulier. Ancien médecin, entré au séminaire à 39 ans, une ascension rapide dans la hiérarchie de l'Église. En attendant la décision du pape, il continue d'assumer ses responsabilités, notamment des confirmations d'adultes à célébrer demain à Saint-Sulpice.
Marie Guerrier pour RTL.
Deux jours après la tragédie qui a coûté la vie à 27 exilés au large de Calais, le ton monte entre Londres et Paris.
Une réunion est prévue dimanche au sujet de la multiplication de ces tentatives de traverser dans la Manche, mais les Anglais ne sont plus les bienvenus autour de la table alors que Boris Johnson a publié une lettre ouverte pour demander à la France de reprendre les immigrés qui arrivent en Grande-Bretagne. Ben, ça n'a pas du tout plu à Emmanuel Macron.
Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettre qu'on rend public. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons.
Voilà, on retrouve Marie Billon à Londres pour RTL. Bonsoir Marie.
Bonsoir Alexandre.
Alors, quelle est la réaction ce soir du Royaume-Uni ?
Écoutez, côté britannique, on est choqué que la France soit choquée. Lors d'un point presse, un porte-parole de Downing Street a dit que le contenu de la lettre n'était pas neuf, que ces points avaient déjà été discutés, notamment l'idée de renvoyer tous les migrants traversant illégalement la Manche en France. Sur la BBC, le ministre britannique Grant Shapps a précisé qu'aucun pays n'a intérêt à s'attaquer à ce problème tout seul.
Je ne vois rien d'infamant à demander une coopération étroite avec nos plus proches voisins. Les propositions ont été faites de bonne foi et j'espère qu'ils verront l'intérêt de se rencontrer pour en discuter.
Selon Downing Street, si la lettre a été publiée sur Twitter, c'est parce que le public veut savoir ce qui est fait pour régler le problème. Exclure la France de la rencontre de dimanche risque de ne pas faire changer d'avis ceux qui pensent, comme le dit un article du journal de droite, le Daily Telegraph, qu'Emmanuel Macron pourrait régler la question des migrants s'il le voulait vraiment.
À Londres pour RTL, Marie Billon.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
À Strasbourg, c'est le grand retour du marché de Noël après son annulation l'an dernier à cause de la pandémie. L'odeur du pain d'épices et du vin chaud règne à nouveau au pied de la cathédrale pour le plus grand bonheur des commerçants.
500 litres, je dirais. Peut-être plus.
C'est ce qu'il faut pour la...
Mais il faut le double d'il y a deux ans, automatiquement, les gens sont en manque.
Ça nous avait manqué l'année dernière.
Bah, ça fait du bien, ça fait du bien. On a eu peur encore jusqu'à la dernière minute. On est content. On espère, on croise les doigts pour que ça dure jusqu'à la fin du mois de décembre.
C'est juste du bonheur, quoi. Pouvoir partager des émotions, partager cette fameuse fête de Noël. On veut juste vivre, hein.
Voilà, 500 litres de vin chaud, ça fait pas mal. Hein. Des propos ça fait pas mal. Recueillis par Yannick Collant pour RTL.
On veut juste vivre, c'est bien dit, effectivement. Ouais. Merci Alexandre de Saint-Aignan. À tout à l'heure. À tout le temps maintenant pour Valérie. Bon, là, c'est franchement l'hiver. Là, hein.
Ouais, cette fois, on y est. Alors oui, on va avoir de la neige en montagne, mais on va avoir de la neige en plaine aussi demain matin, probablement. Et même ce soir, ça arrive déjà localement entre la Creuse, la Bourgogne, les Ardennes. La dégradation qui est arrivée par le nord-ouest va s'étendre à tout le pays pratiquement demain. Et donc, demain matin, entre les Hauts-de-France, le nord du bassin parisien et le Grand Est, on pourrait avoir 2 à 3 cm de neige jusqu'en plaine. Évidemment, il va neiger en montagne une grande partie de la journée, aux alentours de 300 à 400 mètres. Sinon, ce seront des grains, parfois orageux, parfois avec du grésil. Et on va trouver quand même le soleil entre le Roussillon et la Provence, mais enfin, il ne sera pas très, très vaillant. Quant aux températures, elles vont baisser. 2 degrés demain matin à Paris, à Montluçon et à Bourg-en-Bresse. 4 degrés à Gap et Charleville-Mézières demain après-midi. 6 pour Paris et Évreux et 12 à Marseille.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant, sur RTL, on va continuer de vous épauler face à cette cinquième vague parce que les règles changent à l'école et vous, les parents, parents d'écoliers, de collégiens, vous êtes sans doute, comme nous, un peu perdus. On va donc poser 3 questions à la brigade RTL pour y voir plus clair. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors tout d'abord, le ministre dit « Terminé, on ne ferme plus les classes à l'école primaire au moindre cas, mais on testera, s'il y a un cas, tout le monde. » Sophie. S'il y a 10 cas négatifs, 10 cas positifs dans une classe, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien effectivement, dans ce cas-là, la classe pourra fermer, mais rien n'est formellement écrit. Il n'y a pas un nombre défini de cas qui renverrait automatiquement les élèves chez eux. C'est l'Agence régionale de santé qui tranchera au cas par cas. Elle regardera par exemple s'il y a d'autres cas positifs dans d'autres classes de l'école, si l'élève contaminé a des frères et sœurs dans l'établissement, si le virus circule beaucoup dans la ville. Et une classe pourra aussi être fermée s'il est impossible de récupérer rapidement les résultats des tests de tous les élèves après la découverte d'un cas positif dans une classe.
Alors, il y a des parents, fatalement, qui vont refuser les tests pour les enfants. À ce moment-là, s'il y a un cas positif dans la classe de leur petit, eh bien, le petit non testé, on parle de l'école primaire, hein, devra rester à la maison. Est-ce qu'il aura quand même cours à distance ?
Oui, pendant ces 7 jours, il ne se tournera pas les pouces. La continuité pédagogique est obligatoire, donc l'enseignement devra lui faire parvenir des devoirs pendant son absence.
Dernière question pour les collégiens maintenant, parce qu'en 6e, à 11 ans, on est à la limite de l'éligibilité pour être vacciné, donc on ne peut pas être vacciné. Comment ça se passe pour ces enfants de 11 ans, ces élèves de 6e ?
Alors, s'il y a un cas positif, dans ce cas, il faudra tester les cas contacts du collégien, c'est-à-dire les enfants qu'il aura croisés sans masque les jours précédents, donc principalement à la cantine ou en cours de sport. Et pour ces élèves de 6e, il faut noter une nouveauté. À partir de lundi, ils vont tous recevoir une boîte de 10 autotests. Ce ne sera pas obligatoire, mais ils seront incités à se tester 2 fois par semaine à la maison.
Les réponses de la brigade RTL aux questions des parents. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Dans un instant, on va prolonger cet exercice de pédagogie. On va vous aider à y voir plus clair sur le nouveau variant menaçant, sur la 3e dose pour tous. RTL, plus que jamais à vos côtés face à cette énième vague. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions au 3210 à Alain Fischer, le médecin qui dirige la campagne de vaccination dans notre pays. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.